Voilà, nous sommes sous le regard du Seigneur. Nous sommes venus pour adorer Dieu. C'est bien cela ? On est venu pour adorer, également on est venu pour écouter la voix de Dieu. Car nous croyons que le Seigneur a des choses à nous dire. Nous allons faire une lecture dans le psaume 41, où David fait une prière. Fait une prière que nous pouvons faire, que nous aurons à faire, que nous avons déjà faite. Dans le psaume 41, c'est une prière, une vraie prière. Il est malade dans son âme. Il n'y a pas que le corps qui est malade. Parfois, c'est l'âme qui est malade. D'ailleurs, c'est très bien expliqué, psaume 41, verset 5. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Nous allons faire une autre lecture dans le livre préféré des chrétiens, le Lévitique. 14, verset 33. Lévitique, chapitre 14, verset 33. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'enseignement de ce texte, les maisons lépreuses. Est-ce que vous avez déjà vu ce texte? Il est bizarre ce texte, mais il nous enseigne beaucoup. Lévitique 14, verset 33. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira, « J'aperçois comme une plaie dans ma maison. » Le sacrificateur, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui y est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres, paraissant plus enfoncées que le mur, il sortira de la maison et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. Le sacrificateur y retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on jettera hors de la ville dans un lieu impur la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières et l'on prendra un autre mortier pour recrépir la maison. Si la plaie revient et fait éruption dans la maison, après qu'on ait ôté les pierres raclées et recrépi la maison, le sacrificateur y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée dans la maison, elle est impure. On abattra la maison, les pierres, le bois et tout le mortier de la maison. Et l'on portera ces choses hors de la ville, dans un lieu impur. Celui qui sera entré dans la maison pendant tout le temps qu'elle était fermée sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura couché dans la maison lavera ses vêtements. Celui qui aura mangé dans la maison lavera aussi ses vêtements. Si le sacrificateur, qui est retourné dans la maison, voit que la plaie ne s'est pas étendue, après que la maison a été recrépie, il déclarera la maison pure, car la plaie est guérie. Amen. Et c'est la volonté de Dieu, bien sûr, de guérir. Jésus, un jour, va poser la question à un homme qui est malade depuis 38 ans. Il va lui poser la question, veux-tu être guéri? Un homme qui est malade depuis 38 ans. On aurait presque l'impression que c'est indécent de lui poser ce genre de question. Mais c'est Jésus qui la pose, elle a de la valeur. Cela nous prouve qu'il y a des personnes qui ne veulent pas être guéries. Vous allez me dire, monsieur Gault, ce n'est pas possible. Eh bien, moi, je peux vous dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas être guéris. La volonté de Dieu, c'est d'utiliser l'Église. Nous l'avons entendu, rien que par cette partie de l'association Gédéon, on voit de suite que la volonté de Dieu, c'est que des ouvriers se lèvent, c'est que des hommes et des femmes se lèvent, parce que Dieu fait son œuvre au travers d'hommes et de femmes. La seule chose que Dieu a faite sans l'aide de l'homme, c'est la création. Mais à partir du moment où l'homme a été créé, il l'a toujours utilisé pour faire sa volonté. Pour que Dieu utilise l'Église, il faut que les croyants qui sont dans son Église obéissent à Dieu. Parce qu'on ne devient pas des disciples et des vainqueurs Parce qu'on voudrait devenir des vainqueurs. C'est sûr que si vous posez à tous les chrétiens de la terre, est-ce que tu veux être un vainqueur? Tous vous diront oui. Voilà. Mais c'est la même question que veux-tu être guéri? Tout le monde va dire oui. Mais pour être guéri, il faut faire certaines choses. Des fois, c'est qu'un effet de la grâce de Dieu. Des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Vous savez, un croyant ou une église qui n'obéissent pas à Dieu ne sont pas utiles au Seigneur. Il faut que nous le comprenions. Et en plus, l'obéissance doit être joyeuse. Comme Paul dit aux Romains, vous avez obéi de cœur. Un chrétien, il obéit de cœur. C'est un plaisir d'obéir. Ce n'est pas une corvée, ce n'est pas un fardeau que de se mettre à genoux parce qu'on nous a conseillé de prier. Non, c'est un honneur que de se mettre devant Dieu. C'est un honneur que de se sanctifier. C'est un honneur que de se consacrer. Pourquoi il y a tant de frasques dans les églises? C'est parce que dès le départ, on a interprété le service comme étant un fardeau, alors que servir Dieu, c'est un privilège. Vous êtes d'accord? En tous les cas, un croyant, une église qui n'obéissent pas à Dieu ne sont pas utiles. C'est peut-être un joyeux rassemblement, c'est peut-être très excité, même, c'est pas parce qu'il y a de l'excitation qu'il y a de la vie. On peut avoir beaucoup d'excitation et être dans une froideur pas possible. On devient utile et Dieu a un moyen d'accès au travers de nos vies à partir du moment où nous obéissons. Vous le savez, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Un chrétien qui n'obéit pas s'entendra dire un jour, retire-toi de moi. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit. Nous, on entend toujours, venez à moi, demeurez en moi. Tout ça, on entend l'invitation du Seigneur, mais on oublie que le même Seigneur qui a dit, venez à moi, dira un jour à ces mêmes personnes qui n'auront pas pris au sérieux l'obéissance, retirez-vous de moi. C'est une affaire sérieuse. Vous savez que l'église de Laodicée représente l'église de la fin des temps. Et Jésus se tient à la porte de cette église et il frappe. Et il frappe, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend et ouvre la porte, etc. Mais vous avez certainement lu cette histoire souvent, cette affaire souvent. Et vous savez que pour que Jésus puisse frapper à la porte de l'église de Laodicée, il y a au préalable plusieurs conseils que l'on a accepté. Je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu, d'acheter des vêtements blancs, d'acheter du collyre, repens-toi et du zèle, etc. Et s'il n'y a pas au préalable cette soumission à ces conseils, ne nous attendons pas à ce que les choses se passent n'importe comment. C'est sérieux. Le but, c'est le salut. Le but, c'est notre salut, de persévérer jusqu'à la fin. Le but, c'est le salut des autres. Quand Paul écrit à Timothée, il dit, écoute, dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut, par la foi en Jésus-Christ. On voit bien une chose, c'est que tout doit être fait pour le salut. Une église, c'est très bien de distribuer des colis alimentaires aux prostituées, c'est très très bien de faire certaines choses, mais l'église ce n'est pas ça. Ça c'est les conséquences de la foi. L'église c'est le salut des êtres humains. C'est le arracher les hommes à la perdition éternelle. Et c'est vrai que chaque fois qu'on offre une Bible, on permet à une personne de découvrir la vie éternelle. Merci pour les Gédéons, mais vous savez que tous les dimanches, je vous exhorte à prendre des testaments, des nouveaux testaments, des Bibles, des évangiles, pour distribuer toutes les fois que l'occasion se présente. Donc, le but, c'est le salut. Vous êtes sauvés? Est-ce que vous êtes, si vous mourrez dans la soirée, est-ce que vous allez au ciel? C'est sérieux cette affaire? Est-ce que vous êtes sûr que si vous mourrez dans la journée, vous allez au ciel? Oui? Tous? Vous pouvez dire, oui, si je meurs ce soir, je sais que ça sera vraiment les grandes vacances. Je le sais. Vous pouvez le dire? Heureux, heureux êtes-vous. Ce texte que l'on vient de lire s'adresse aux chrétiens. Vous avez vu au début? Lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan. Donc, ça représente tous ceux qui sont entrés dans le salut, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Voilà. Mais il peut arriver que même quand on est entré dans le salut, il y ait des problèmes. Il y ait de véritables problèmes, et là nous voyons que Dieu permet qu'une affaire touche une maison, qu'un malheur puisse atteindre le chrétien. Est-ce que le malheur peut atteindre un chrétien? Ben oui, bien sûr. Un malheur peut atteindre un chrétien. Arrêtons de cette fausse, ce faux enseignement où qu'un malheur ne peut nous arriver. Ce n'est pas vrai. Certains malheurs peuvent nous arriver. C'est vrai. Alors là, il parle d'une plaie de lèpre, une maison touchée par la lèpre. La lèpre, c'est un champignon, c'est une moisissure. Alors si c'est soigné à temps, c'est pas un problème. Mais cette maison, vous le savez, la maison de Dieu, c'est qui dans le Nouveau Testament? C'est nous. C'est nous le temple du Saint-Esprit. C'est l'Église qui est la maison du Seigneur. Alors la maison, quand on fait un mariage, on compare le couple à une maison. Est-ce que c'est biblique ? Oui. C'est l'image du couple, du croyant, de la famille et d'une assemblée locale. Alors, si on prend les textes, vous voyez, il est parlé de cavités, de creux, les pierres attaquées. Ça nous parle de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, de nos luttes et de nos combats. Vous en avez des luttes et des combats ? On en a tous. Si vous n'en avez pas, vous m'inquiétez sérieusement. Venez me trouver à la fin. Alors, ce texte nous enseigne qu'il faut faire attention, qu'il y a parfois des symptômes alarmants, mais au début, on n'y fait pas attention. Vous voyez ? Si vous allez voir le docteur, ça vous arrive d'aller voir le docteur ? Vous avez une douleur ? Oula, il faut que j'aille voir le docteur. Vite, vite. Pour le corps, par contre, ça, on s'en occupe. Oui ou non ? Il y a des gens, ils ont une petite douleur. Vite, vite, vite. Il faut que j'aille chez le docteur. Il faut que je fasse un check-up. Vite. C'est vrai ou c'est pas vrai, ça ? Hein ? Imaginez voir que vous allez, imaginez, vous allez voir un docteur, vous dites, voilà, je souffre, et vraiment, mais là, que ce soit avéré. Et que le docteur vous dit, bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va passer. Qu'est-ce que vous diriez de ce docteur, en fait ? Hein ? Et ? Mais c'est pas mon docteur. Est-ce que c'est déjà arrivé ? Oui, c'est déjà arrivé. Que des gens soient morts parce que des docteurs n'ont pas fait leur travail. C'est déjà arrivé. Mais il y a des symptômes qui, au départ, sont des petits symptômes, des petits problèmes, mais que des fois, on ne règle pas. Parce que quelqu'un vous dit, mais c'est pas grave. Mais, ça peut devenir de véritables maladies. C'est pour cela qu'il est dit, si vous commencez à apercevoir une tache, voilà, il faut faire attention. Apercevoir, vous avez vu verset 35 ? On y revient, verset 35. Hein ? Voyez ? Celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira « J'aperçois, j'aperçois ». Vous voyez, au début, c'est pas grave. « J'aperçois comme une plaie ». C'est peut-être pas grave, mais peut-être que ça l'est. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a des fois des petites difficultés, c'est pas grave. Mais il y a des fois, c'est révélateur d'un problème beaucoup plus grand. Il ne faut pas attendre que la maison s'écroule pour régler le problème. Vous savez, quand on est chrétien, on doit être sérieux. Souvent, les chrétiens, à cause de la joie du salut, s'autorisent à être légers dans certains domaines. Mais dès que l'on commence à s'apercevoir de certaines choses, on devrait s'en préoccuper. Déjà au niveau personnel. Au niveau personnel, il y a des signes qui peuvent nous préoccuper. Quelqu'un qui est tout le temps irrité. Est-ce que ça peut arriver de s'irriter ? Si vous vous mettez en colère, si vous vous irritez, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Est-ce que ça peut arriver, une irritation ponctuelle ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vous irritent parfois ? Est-ce que c'est grave ? Non. Mais si vous êtes continuellement irrité, ou si vous vous irritez pour rien, c'est peut-être déjà un problème. Une colère injustifiée, est-ce que ça peut arriver ? Est-ce que quelqu'un peut se mettre en colère ? Attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai dit. Est-ce que ça peut arriver que quelque chose nous mette en colère ? Oui. Mais une colère injustifiée, est-ce que c'est bien ? Quelqu'un qui se met en colère pour rien ? C'est déjà quelque chose qu'on devrait peut-être analyser. Une humeur instable, qu'est-ce que j'ai marqué ? De l'agressivité systématique. Il y a des gens, de suite, ils sont agressifs. Est-ce qu'un chrétien doit être agressif ? Ben non. Un chrétien, il doit rechercher la présence de Dieu pour recevoir la paix. C'est vrai que Dieu peut permettre des épreuves pour tester la patience, oui ou non ? Ah ouais, bon. Est-ce qu'avoir une angoisse, ça peut arriver ? Mais une angoisse revient tout le temps sans cause apparente. C'est pas normal. Quelqu'un d'entêté, est-ce que vous connaissez, vous n'en connaissez pas, mais est-ce que vous connaîtriez des gens qui sont continuellement entêtés et qui confondent avec l'intégrité ? Moi, je suis intègre. Il ne faut pas confondre l'intégrité et l'entêtement. L'amertume, quelqu'un qui est toujours amer. Cette semaine, j'ai discuté avec une fille. Elle a commencé à me dire, oui, les autres. J'ai dit, mais ce n'est pas les autres. J'ai dit, est-ce que vous avez le même problème au travail ? Oui, exactement. J'ai dit, voyez, mais c'est une question, on va le voir, c'est une question d'honnêteté. Le refus de prier, peut-être avec son conjoint. Est-ce que c'est bien de prier avec son conjoint ? C'est une bénédiction, c'est une grande bénédiction. Par exemple, ça peut être révélateur d'une frustration. Quand on prend des distances avec l'Église, est-ce que c'est bien d'avoir une Église ? Hein ? C'est bien d'avoir une église ? C'est bien d'avoir un pasteur dans l'église ? Hein? Si on vit toujours dans la culpabilité, il y a des gens qui sont toujours dans la culpabilité. Alors il y a la vraie culpabilité, c'est une bénédiction la vraie culpabilité, parce que ça nous permet de nous repentir. Mais il y a des gens qui sont dans la fausse culpabilité, c'est pas normal. C'est un début de lèpre. Et je suis persuadé quand même qu'on devrait être sérieux avec ces symptômes qui peuvent parfois attaquer notre maison. Au niveau du couple, il y a le niveau individuel, tiens, au niveau du couple, est-ce qu'il peut y avoir des disputes dans un couple ? Qui ne s'est jamais disputé avec sa femme ? Ça peut arriver, tu disputes pour un détail. Mais il peut y avoir des disputes qui reviennent sans cesse. Je pense que c'est quand même un symptôme, quelque chose qui ne va pas. Plus de dialogue. Vous êtes, ma soeur, vous en avez parlé à votre mari ? On ne parle plus. Ne riez pas, ne riez pas. Ne riez pas, ne riez pas. Parce que je trouve que c'est quand même dommage, parce que c'est bien un endroit où on devrait communiquer. C'est quand même dans le couple. Oh, c'est pas grave, on parle plus avec mon mari, mais c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est grave. Je trouve que c'est grave. Plus de joie de rentrer au foyer. Franchement, les hommes, est-ce que c'est une joie pour vous de rentrer à la maison ? Il y en a 8, c'est bien. Est-ce que c'est une joie de rentrer le soir à la maison, après la journée de travail ? Quand on entend dire, ah ben moi je reste le plus longtemps possible au boulot, j'ai pas envie de rentrer à la maison. Moi, je crois que c'est un symptôme. Parce que quand même, c'est bien d'aimer le travail, mais parce que c'est une bénédiction aussi. Mais c'est pas bon quand on a envie de fuir la maison. La maison, ça doit être un lieu béni, la maison. La maison, ça doit être un endroit où on est heureux de se retrouver. Quelle bénédiction d'avoir envie de rentrer à la maison. Si vous avez envie de fuir la maison, c'est pas bon. Parce qu'après, on pense au divorce. Vous savez, vous croyez pas que c'est des symptômes qui s'aggravent ? C'est pas grave, tout le monde le fait maintenant, c'est pas grave. On envisage l'adultère. Un chrétien, M. Gault, qui envisage l'adultère, mais ce n'est pas possible. Ces choses-là, ce sont des plaies. Ça peut être le début, mais ça vaut la peine quand même d'être sérieux. C'est pour ça que quand Jésus pose la question, elle est intelligente. Veux-tu être guéri ? Et si Dieu nous en parle, comme dans ce texte, il veut que nous nous en occupions au début. Parce qu'après, c'est trop tard. Nous, hélas, nous en souffrons et nous en avons suffisamment pleuré d'essayer d'aider des couples. C'était trop tard. Vous allez me dire, oui, mais c'est jamais trop tard. Écoutez, il y a des situations, des fois, il y a une telle douleur que les gens ne peuvent pas faire des efforts pour surmonter. Il peut y avoir un miracle. Je crois au miracle. Mais je crois aussi que Dieu fait certaines choses par le biais de notre responsabilité. Au niveau de l'église locale, c'est une bénédiction d'avoir une église. Moi, j'en suis profondément conscient depuis qu'on a mis en place le site internet. Tous les gens qui m'appellent, qui me disent « Ah, monsieur, vous savez, je suis dans l'Aveyron, dans un petit village. Je suis le seul chrétien. Voilà. Je vous écoute le dimanche matin. J'écoute, je vous regarde. Voilà. » Je dis « Mais vous avez un avantage. C'est que quand vous ne voulez plus m'écouter, vous pouvez arrêter. À l'église, ils ne peuvent pas le faire. Voilà. Mais ils sont heureux. Mais ils aimeraient retrouver des frères et des sœurs ensemble. Est-ce que c'est une bénédiction de se retrouver ? On ne se rend pas compte, il y aurait beaucoup de choses. C'est une bénédiction, mais quand on commence à murmurer, bon, murmure, ça peut arriver, oh pardon, j'ai dit une bêtise, pardon. Mais quand on vit continuellement dans le murmure, dans la critique, dans la contestation, quand on commence à devenir superficiel, voilà, avec les choses spirituelles, ouais, c'est pas grave, on l'entend ça. Quand on commence à dire, oh, je prie pas cette semaine, j'ai pas prié, oh, c'est pas grave. Moi, je pense que quand on commence à baisser dans la prière, c'est un symptôme d'un problème. Vous voyez ? Dans une église, s'il y a des rivalités, de la jalousie, est-ce que ça peut arriver qu'il y ait de la jalousie ? On est bête parfois. Mais il faut veiller. Soyez vous-même, aimez-vous comme vous êtes et avancez dans la vie. Ne jalousez jamais quelqu'un. Mais ce sont des choses qui arrivent. Vous savez, dans une église, si la priorité, ce n'est plus la prière, ce n'est plus la parole de Dieu, ce n'est plus l'adoration, ce n'est plus des cantiques spirituels, parce qu'il y a cantique et cantique, mais si la priorité, ce n'est plus des cantiques spirituels, ce n'est plus le culte, moi je crois que dans cette église, il y a un début de plaie. Alors on ne s'en rend pas compte parce que on relativise, etc., continuellement. Mais moi, j'ai souvent ce verset qui est dans mon cœur. Quand Dieu parle au pasteur du temps de Jérémie, il pense à la légère, la plaie de mon peuple. Ils pensent à la légère, la plaie de mon peuple, et ils disent paix, paix, alors qu'il n'y a pas de paix. Et c'est vraiment d'un ridicule pas possible, en tous les cas d'un aveuglement total, que de dire aux gens, voilà, tout va bien. Alors, quand il y a un problème, il y a un problème. C'est pas la fin du monde, mais il faut que nous apprenions à les régler. Et pas n'importe comment, l'amour couvre tout. On entend ça souvent, ça. L'amour couvre tout, mais l'amour ne couvre pas le péché qui ronge. Moi, je crois que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est-à-dire qu'une fois c'est réglé. Ça couvre. Vous êtes d'accord avec moi? Quand c'est pardonné, c'est pardonné. Mais tant que c'est pas pardonné, ça a besoin d'être réglé. Et voyez, c'est ça, interpréter les Écritures à sa façon, de dire l'amour couvre tout, c'est pas grave. Mes frères et sœurs, le péché, il faut le régler. Oui, l'amour couvre tout. Mais le péché qui ronge, il faut le régler. Ne méprisons jamais les petites plaies. Les débuts de plaies, ces symptômes qui se prolongent, qui s'aggravent, peuvent devenir de véritables problèmes au niveau personnel, au niveau du couple, au niveau de la famille et au niveau de l'Église. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous le savez que Dieu vous aime, vous le savez? Vous le savez vraiment que Dieu il est toujours prêt à nous aider, toujours plein de compassion, de miséricorde. Qui sait qui a porté sur lui nos blessures, nos souffrances, nos maladies, notre péché, etc. Mais il veut notre participation. Chaque fois que le Seigneur a accompli un miracle, il a demandé la participation de la personne. Même pour ressusciter Lazare, il a dit à Marthe et à Marie, ôtez la pierre. Est-ce qu'il pouvait le faire, le Seigneur? Est-ce que franchement, il pouvait appeler Lazare, sort Lazare, et en même temps qu'un ange pousse la pierre? Est-ce qu'il pouvait le faire? Est-ce que ça causait un gros problème au Seigneur de rouler la pierre? Qu'est-ce que c'est le plus difficile? Rouler la pierre ou ressusciter un cadavre? Et le faire remonter du tombeau? Qu'est-ce que c'est le plus difficile? Hein? Mais Dieu, écoutons bien, parce qu'il y a des gens, oui, je m'attends à Dieu. C'est pas vrai. Parce que Dieu demande souvent notre participation. Et ça, c'est sérieux. Il faut faire la démarche. Vous avez vu au verset 35, elle incombe à celui à qui il appartient la maison. Celui à qui appartient la maison ira le déclarer au sacrificateur. Voilà, ça c'est de l'enseignement. Voilà, c'est au propriétaire de la maison de faire la démarche. C'est celui qui est concerné. Voilà, j'ai un problème, je dois faire la démarche. Des fois, les gens nous disent, oui, vous auriez dû aider cette personne. Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas aidé cette personne. Rendez compte, elle a le besoin. Et bien, je dis, mais oui, mais on ne le sait pas. Mais souvent, oui, vous auriez dû faire un colis, monsieur Gros. Rendez compte, ce gars, il a le besoin. Il vient à l'église, il n'a rien à manger. Vous n'avez pas donné un colis? Non. Mais je ne le savais pas. Vous auriez dû le savoir. Ah bon, excusez-moi. Non, mais ça arrive, ça. Bon, on est habitué. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, c'est bien que la personne, elle le demande. Dans la Bible, il est dit, demandez. Faites connaître vos besoins. Alors, c'est vrai que Dieu a des miracles, mais il y a quand même l'Église, d'accord? Alors, qui c'est le propriétaire de votre maison? C'est vous. Vous êtes responsable de votre vie. Oui ou non? On est responsable. Quelqu'un me disait, il y a quelques jours, je ne comprends pas. Ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas mariés. Et ils ont eu un gosse, je comprends pas. Mais soyons sérieux. Dieu, il nous a enseigné comment il fallait faire pour procréer. Quand un homme couche avec une femme, non mais il y a de fortes chances qu'un jour, la femme tombe enceinte. On est responsable. Alors mais cet enfant, est-ce qu'il vient de Dieu, est-ce qu'il vient pas de Dieu? Mais voyez où on en est aujourd'hui. Alors ça, j'ouvre un débat. Non mais, vous comprenez ce que je veux dire. Dieu nous a créés responsables. Nous sommes responsables de notre vie. Même cet homme qui a été guéri au bout de 38 ans, que Jésus a retrouvé dans le temple, Jésus va lui dire, va et ne pêche plus. Ça veut dire que Dieu met sur cet homme sa responsabilité. En fait, la suite de sa vie, il le rend responsable. Est-ce que c'est important d'être responsable? Est-ce que vous, messieurs, mes frères, sérieusement, est-ce que vous êtes responsable de votre famille? Le chef, c'est le responsable. Il y a des hommes qui se targuent, c'est moi le chef de famille. Oui, mais c'est bien. Mais c'est quoi le chef de famille? C'est le chef qui commande,
comme les généraux qui commandent. Moi, je suis comme un militaire dans ma maison. Ça marche à la baguette. Vous verriez comment ma femme m'obéit, comment elle se soumet. Je ne parle pas de moi, je parle de certains cas de figure. Est-ce que mes frères et sœurs, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se sentent chefs dans ce sens-là? C'est pas ça être un chef. Le chef, c'est celui qui a la responsabilité d'aimer sa femme, d'aimer ses enfants. Mais qu'est-ce que c'est pour vous être un chef de famille? Mes frères, vous savez, si vous n'avez pas soin des siens, celui qui n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Et ne soyez jamais des chefs dans le sens militaire, soyez des chefs dans le sens de protecteur, de bénir votre femme et vos enfants. Celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille, il ne pourra pas prendre soin de l'Église. Et je vous assure, dans l'Église, je crois qu'il y en a trois ou quatre. Ils ne le savent pas, mais le Seigneur me l'a montré. Vous voulez rentrer dans le ministère, prenez soin de votre femme d'abord et de vos enfants. Car si vous ne prenez pas soin de votre famille, vous ne pourrez pas prendre soin de l'œuvre de Dieu. Mais c'est une évidence, c'est enseigné, il y a des choses qui sont vraiment claires dans l'Écriture, mes frères et sœurs. L'Église, tiens donc l'Église. Les responsables d'une Église, c'est qui les responsables dans une Église? Est-ce que c'est que le pasteur qui est responsable de l'Église? Est-ce que les anciens, les diacres, les diaconesses, est-ce que les moniteurs de l'école du dimanche, il y en a parmi nous, est-ce que vous n'êtes pas un peu responsable des enfants que Dieu vous a confiés? Non? Oui? C'est vrai, il est parlé des pasteurs. Ils veillent sur vos âmes. Mais est-ce que ce n'est pas aussi écrit ailleurs, veillez les uns sur les autres? Alors, c'est ça, voyez? Bien sûr que le pasteur responsable, il est responsable de l'Église, mais on doit veiller les uns sur les autres. Ça, c'est quelque chose d'important. On peut détecter un début de plaie chez quelqu'un, c'est pas facile. Mais il y a quand même, mais tu sais, t'as l'air toujours en colère. Mais non, je suis pas en colère, tu te trompes, c'est un trait de caractère. C'est pas vrai? Et il y a des gens à qui on ne peut plus parler. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais moi le premier. Vous voulez pas qu'on vous aide? Non, le Seigneur m'aidera. Ah bon? Mais c'est bien. On l'entend ça. Moi, je me confie qu'en Dieu. Mais pourquoi Dieu a créé des responsables alors? Pourquoi Dieu a créé des pasteurs? Dieu aurait pu dire, écoute, ça se passera entre vous et moi. Il n'y a pas besoin d'hommes. Non, ce n'est pas vrai. La démarche, elle est sérieuse. Nous devons veiller les uns sur les autres dans une église. On ne peut pas dire, moi, les autres, je m'en fiche, le Seigneur, il m'a parlé, que t'importe les autres, toi, suis-moi. Vous voyez, quand on prend un verset, n'importe comment. Mais ça, c'est malhonnête, ça. Parce que ça veut dire autre chose, croyez-moi. Ça veut dire exactement l'inverse en plus. Le sacrificateur, allez voir le sacrificateur. Alors, c'est sûr que le sacrificateur par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il faut savoir s'approcher de Jésus tout le temps. Est-ce que vous aimez vous approcher de Jésus? Approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir. Quand on s'approche de Dieu, ce n'est pas que demander, c'est dans un état d'esprit d'obtenir. Approchez-vous afin d'obtenir la grâce. On voit bien que Dieu veut que nous obtenions. Il faut savoir, tu vois Seigneur, ce que j'ai remarqué. C'est vrai, mon épouse me l'a dit, que j'étais toujours irrité. Seigneur, je l'accepte. On ne peut pas accepter le reproche de son conjoint. On ne peut pas accepter le reproche d'un frère et d'une sœur qui vous dit, écoute, quand même, peut-être tu devrais te fatiguer. Moi, je bénis Dieu toutes les fois où gentiment, un ancien, une sœur m'a dit, Monsieur Gault, franchement, on vous trouve fatigué. Vous devriez prendre 2 ou 3 jours du repos. Parce qu'un pasteur fatigué, il fatigue les autres. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si vous ne me croyez pas, demandez à Madame Delabre, si elle ne me l'a pas déjà dit plusieurs fois. Savoir s'approcher de Dieu, dire Seigneur, mais tu vois ce qu'il y a dans mon foyer, il y a un truc qui cloche. Bien sûr que la maison n'est pas par terre. La maison, elle tient debout. D'ailleurs, personne ne le voit, c'est à l'intérieur. Mais quand même, ça ne vaut pas la peine d'être sérieux. À l'intérieur de ma maison, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vis à l'intérieur de mon cœur, mais dans mon foyer, avec mon épouse, avec mes enfants? J'y reviens, tu vois, dans mon activité professionnelle. Ça commence comme ça. Seigneur, éclaire-moi. Vous avez vu la prière de David qu'on a lue ? Guéris mon âme. Cette honnêteté, il est le roi d'Israël. Et il n'a pas honte de dire, mais guéris mon âme, parce que j'ai péché. C'est beau d'être honnête avec Dieu. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas faire toutes sortes de prières dans l'église, mais à genoux, seul, dans son bureau, Seigneur, oui, j'ai besoin de ton aide. Est-ce que Jésus va vous laisser en plan ou est-ce qu'il va vous aider ? Il faut être sérieux. Mes frères et sœurs, il faut être sérieux. Bien des chrétiens ont décroché, bien des chrétiens ont abandonné la foi, ont perdu le salut, parce qu'on se réjouit du salut. Mais combien l'ont perdu ? Combien l'ont perdu ? Allez voir le Seigneur, allez voir un frère, allez voir une sœur. Si Dieu a établi des ministères dans l'Église, c'est parce qu'il en faut. Oui ou non ? Pourquoi Dieu a-t-il établi des anciens, des diacres, des pasteurs, des diaconesses ? Parce qu'il en faut. S'il n'en avait pas fallu, il n'y en aurait pas. Et ne faites pas partie de ceux, parce que des fois on dit, monsieur Hugo, je n'ai pas besoin de vous, parce que des fois on voit bien que quelqu'un ne va pas. Vous ne voulez pas qu'on discute ? Non, j'ai besoin de personne. Moi, je vis dans l'humilité. Ce n'est pas l'humilité, ça, c'est de l'orgueil. Vous pouvez je ne vais pas l'expliquer, je n'ai pas le temps, mais c'est de l'orgueil. Il y a des choses qui se règlent entre Dieu et vous seul. Alléluia. Mais il y a les situations, il faut admettre qu'on a besoin d'aide parfois. Vous êtes d'accord ? C'est ça, il ira voir le sacrificateur. Voilà, quelqu'un qui est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église. Quand il est dit si quelqu'un est malade, dans la souffrance, qu'il prie, ça ne veut pas dire qu'il parle à Dieu. Prier pour certaines personnes, c'est que parler. Prier, c'est peut-être écouter Dieu. Pourquoi je suis malade ? Pourquoi je suis dans la souffrance ? Plutôt que de prier, de dire, Seigneur, tu vois, change-le à lui, change-le à elle, tu vois, change-le. Parce qu'il y a des gens, ils demandent à Dieu que les autres changent. Change-le, tu vois, moi, Seigneur, ça va, mais eux ne vont pas bien, alors change-les. Moi, je crois que c'est peut-être bien d'appeler les anciens. Vous savez, nous, l'onction d'huile, je ne dis pas ça par rapport à ce matin, moi, je trouve qu'on le fait d'une manière très, très superficielle. Il me semble qu'on devrait le faire avec beaucoup plus d'attention. Et que quand on a besoin d'onction d'huile, on devrait d'abord avoir un entretien. On le fait comme ça depuis toujours. Et ce n'est pas un reproche, parce que c'est bien de le demander en même temps. C'est bien d'avoir cette simplicité de dire, voilà, j'aimerais avoir l'onction d'huile. Ce n'est pas un reproche pour la sœur qui a demandé l'onction d'huile ce matin. Mais sincèrement, je suis sûr qu'à ce niveau, dans l'Église, on ne fait pas la volonté de Dieu. Soyons honnêtes. Hein. Et on devrait peut-être avoir un entretien avec la personne, avec des anciens. Voilà, je suis malade, je souffre. Est-ce que vous ne pourriez pas m'aider à faire le point ? Et après, demander l'onction d'huile. Je ne dis pas que pour tous les cas c'est comme ça, mais je crois que c'est l'enseignement de Jacques, chapitre 5. Alors, bien sûr, si vous voulez vous débattre tout seul, mais débattez-vous tout seul. Mais moi, je crois que Dieu veut que nous nous aidions les uns les autres. Ce n'est pas pour rien qu'il est écrit « si deux s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée ». Si deux s'accordent, vous ne croyez pas déjà que dans un couple, ça serait bien de s'accorder ? Si deux d'entre vous s'accordent, est-ce que l'humilité, elle ne devrait pas commencer dans un couple et dire, voilà, on va s'accorder, on va prier ensemble. Vous savez, quand moi j'entends une femme ou un homme qui me dit, moi je ne prie plus avec mon conjoint, ça me fait mal à la peine parce que c'est dommage. Parce qu'on a besoin, Jésus a dit, je lui ferai une aide. Votre femme, elle est là pour vous aider, elle n'est pas là pour vous descendre. Oui ou non ? Si Dieu, mes sœurs, j'ai parlé tout à l'heure au chef, mais maintenant, je parle au sous-chef. Est-ce que franchement, mes sœurs, vous voulez être une bénédiction pour votre mari ? Accordez-vous déjà dans la prière. Seigneur, on réclame ton aide. C'est vrai qu'il y a des démarches, il faut être honnête. Il faut être vrai. Et on peut jouer, vous savez, avec les mots. Avec les mots, il y a des gens qui sont très forts pour faire du mal. Ce matin, je lisais dans Jérémie quand ils ont dit « mais tuons-le avec la langue ». Et nous devons faire attention aux paroles que nous utilisons. Dans le coup, oh, mais je disais ça pour rigoler. Je ne sais pas, je crois qu'il y a un temps pour rire. Je crois que c'est bien de rire. Et je crois que s'il y en a qui devraient être heureux, ce sont bien les chrétiens. Les gens qui sont heureux aujourd'hui, ce n'est pas les gens qui sont au Festival de Cannes. Les gens qui sont heureux, ce sont les gens qui sont sauvés dans les églises du Seigneur Jésus-Christ. Ça, je suis formel. Vous le croyez ? Mais je le pense vraiment. Mais il y a une question d'honnêteté. Ne jouez pas avec les mots. Dans un couple, il faut faire archi attention. Cette gymnastique cérébrale avec l'humour à deux balles, comme on dit, ne l'utilisez pas. Soyez honnête, soyez vrai, soyez sérieux. Parce que la plaie, elle peut exister. Alors, on peut tomber dans des extrêmes. Il y a des gens qui dramatisent. il y a une petite douleur, oula, j'ai un peu d'hypertension, je vais mourir, je vais mourir. Je vais mourir. Je sens que je vais mourir. Bon, il y a déjà, ils dramatisent. Dès qu'il y a un petit truc, ça y est, ils préparent leurs obsèques. Bon, c'est vrai ou c'est pas vrai qu'il y a des gens qui dramatisent? Il n'y a pas des gens qui dramatisent? Bon, et il y a ceux qui minimisent. Il y a ceux qui disent, non, c'est rien, c'est rien. Peut-être parce qu'on a peur de la vérité. Pourquoi on dramatise? Ça, c'est un autre débat. Pourquoi on minimise? C'est pour ça que je vous dis, il faut être honnête. Et c'est important que dans une église, on vive dans un climat d'amour, de foi, de discrétion. Parce qu'il faut être discret. Mais autant à la maison qu'à l'église, on doit vivre dans un climat de paix et de foi. C'est important que dans une église, on soit toujours en paix les uns avec les autres. Ça facilite cette guérison intérieure. Alors, quand je parle de guérison, d'entretien avec les uns, avec les autres, je ne parle pas d'interrogatoire, vous savez, où on vous fait retourner dans le passé pour essayer de savoir d'où vient ceci. Écoutez, moi je pense que cette pratique, pour avoir vu des gens complètement détruits, elle est malsaine. Est-ce que vous avez vu Jésus une fois dans la Bible, ou Dieu dans l'Ancien Testament, amener les gens à retourner dans leur passé ? Jamais. Il n'y a aucun texte. Quand il nous est dit de nous souvenir de ce que nous étions autrefois, c'est pour qu'on se souvienne qu'on était dans les ténèbres et qu'on est dans la lumière. Et même quand il est dit « examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi », ça veut dire « mais examinez-vous pour savoir si vous faites toujours confiance à Dieu ». La foi, c'est la confiance à Dieu. Ce n'est pas s'examiner pour savoir si on va bien. C'est s'examiner pour savoir si on est toujours dans la foi. À la limite, le seul texte qui pourrait nous parler d'introspection, c'est « éprouvez-vous vous-même ». C'est le seul texte dans la Bible. Et moi, je vous dis, faites attention à ces pratiques où on vous amène pendant des heures à retourner dans le passé pour savoir quelles sont l'origine de vos démons, etc., etc. Moi, je trouve que c'est dangereux. Je pense qu'il faut être très sérieux, mes frères et sœurs. Moi, j'ai des gens qui sont venus me trouver, ils étaient détruits. Il y a une femme un jour qui est venue me voir, elle a passé une nuit entière avec un serviteur de Dieu. Ah, aller dans le passé, à tel point qu'à un moment donné, elle a vu sa fille qui était morte depuis quelques mois. Elle l'a vue apparaître. Je vous dis qu'on est loin. On est loin de la guérison divine dans ces pratiques-là. Quand je vous dis que c'est dangereux, c'est quelque chose de dangereux. Par contre, il faut être honnête, oui, là, il y a une plaie. Je ne prie plus avec ma femme, il y a un petit problème. Je ne fais plus le culte aux enfants, il y a une plaie. Il faut savoir, premièrement, si c'est un problème, c'est un problème ou non. Par exemple, le problème de la tentation. Il y a des chrétiens qui sont dans la tentation, ils ont l'impression qu'ils sont dans le péché. Oui, comme cet homme un jour qui m'a dit, moi, je suis dans un adultère, j'ai trompé ma femme. Bon, je dis, vous avez trompé votre femme. Oui, j'ai trompé ma femme, mais comment ça? Eh bien oui, ça m'arrive des fois, quand je vois une femme, d'avoir une tentation. Et Jésus l'a dit, mais celui qui regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. J'ai dit, mais vous êtes tenté en la regardant ou vous la convoitez? Mais non, monsieur Gauche, je suis tenté. Mais voyez, ce manque de bon sens. Jésus, il a dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter, c'est-à-dire que lui, il a l'intention d'aller plus loin que le regard. Il veut aller à ses fins. Oui, il a déjà commis l'adultère parce que dans sa tête, il a calculé comment il allait faire pour avoir un rendez-vous avec elle, et je ne sais rien, et le reste. Tandis que la tentation, ce n'est pas un péché. Et on a tous des tentations. Pardon Seigneur, pardon. Mais il faut quand même arriver à un stade, si on parle de vainqueur et d'église vivante, de savoir si c'est un problème, ça en est un ou ça n'est pas un. Et ce chrétien avait 25 années de marche avec Dieu. Pourquoi je dis ça? Je dis que c'est dommage. Je dis que c'est dommage d'avoir 25 ans de conversion et de ne pas avoir arrivé à faire la différence entre la tentation et la convoitise. Mais prenez un dictionnaire. Moi je dis aux anciens que je forme, mais prenez un dictionnaire, vous allez voir la différence. Vous ne trouvez pas que c'est dommage d'arriver à 25 ans de conversion et de ne pas faire la différence entre la tentation et la convoitise? Oui ou non? Il faut savoir si un problème, ça n'est un ou ça n'est pas. Dans le domaine personnel, dans le domaine du couple, dans le domaine de la famille, dans le domaine de l'église. Parce que si on ne prend pas le temps d'être honnête, d'être simple dans le sens de pas compliqué, eh bien aujourd'hui on expédie. Ça va pas, on divorce. C'est pas vrai comme ça, que ça, comme ça. Voilà, c'est comme ça. T'es pas contente? Eh bien je divorce. Bon, que les païens fassent ça, on ne peut pas les juger, on ne peut plus comprendre. Mais quand c'est les chrétiens, on se demande quand même dans quel état d'esprit ils sont. Seigneur, je réclame ton aide, parce que je sais que tu m'aideras. Est-ce qu'avec Dieu, il y a un remède à toute chose? Est-ce que Dieu peut remettre la paix dans un couple chrétien? Est-ce que Dieu peut guérir un chrétien? Est-ce que Dieu peut faire en sorte qu'un homme et une femme mariés se réconcilient? Est-ce que vous croyez encore à la réconciliation? À la bénédiction? Moi, je le crois, ça. Que nous avons un Dieu qui nous aide. Et si l'Église, si les couples, si les familles réapprenaient à mettre les priorités en place, je peux vous dire qu'on verrait vraiment la bénédiction de Dieu dans l'Église. Réapprenons à nous tourner vers Dieu, à nous tourner vers Dieu dans la prière pour obtenir la guérison. David, il a été honnête, guéris mon âme parce que j'ai péché contre toi. Il n'a pas dit, ouais, j'ai péché, ouais, tu comprends, c'est un coup du diable, ça, cette affaire avec Bathsheba, franchement, qu'est-ce qu'elle faisait là, c'est sa faute. Non, mais c'est trop facile de dire c'est la faute à l'un, c'est la faute à l'autre. Oui, je quitte l'église parce qu'il ne m'a pas dit bonjour. Il faudrait qu'on aille pendant un mois dans les pays persécutés. Ça nous ferait du bien. Je le pense. Hein. Mes frères et sœurs, avoir cette honnêteté, revenir au calvaire, parce que je crois que toutes les guérisons passent par la croix. Parce qu'à la croix, il y a la victoire. Toujours. Le sacrificateur, le souverain sacrificateur, il est là pour nous aider. Les frères, les sœurs, nous sommes là pour nous aider les uns les autres. Dieu est un Dieu qui guérit. Alors vous avez vu ce qu'il dit? De faire le vide. De faire le vide de la maison. Parce que dans une maison, il y a des meubles. Et derrière les meubles, il peut y avoir des taches. Il peut y avoir la lèpre. Alors, faire le vide dans le monde, ça n'a pas du tout la même signification que dans la parole de Dieu. Je fais le vide. Je me relaxe. Non mais, j'écoute de la musique New Age, le chant des oiseaux. Non mais, vous l'entendez ça? Comment vous vous détendez? Ah, moi j'écoute de la musique, les oiseaux, le bruit des rivières, bon, le bruit des vagues, je sais pas moi. Dans la Bible, faire le vide, c'est pas ça, du tout. Vider la maison, c'est je crois que c'est commencer vraiment à faire en sorte d'enlever tout ce qui ne va pas dans sa vie. Ça, ça ne va pas, Seigneur. Je me suis fait piéger. Je me suis fait avoir. Il y a des choses qui sont rentrées par la porte. Le péché se couche à ta porte, a dit Dieu à Caïn. Mais toi, domine sur lui. Enlève tout ce qu'il y a. Il y a peut-être des choses que vous avez acceptées dans votre vie qui sont en train de vous détruire. Il y a des chrétiens qui passent des heures à chatter sur Facebook. Moi, ça ne me fait pas rire, je vous le dis. Parce que ça vole le temps à Dieu. Ça vole votre temps de prière. Alors vous allez me dire, mais c'est vachement sain. C'est une plaie. Parce que c'est en train de détruire votre communion avec le Seigneur. Il y a une porte, nous avons tous une porte, et le péché transite par cette porte, ou il sort par cette porte. Il ne faut pas cacher les choses. Faire le vide, c'est dire, voilà, ça n'a rien, plus rien à faire dans ma vie. Ça détruit mon foyer, ça détruit ma communion avec Dieu. Il ne faut pas cacher les choses. Les meubles peuvent cacher dans une maison des taches. Celui qui cache ces transgressions ne prospèrent pas, mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Et je crois qu'il y a 20 ans, il fallait que la maison reste fermée pendant 7 jours. C'est bien d'être honnête et de dire, voilà, eh bien, je vais prendre du temps. Ça prend du temps parfois, parce qu'on croit au miracle instantané. Moi, j'y crois au miracle instantané. Franchement, mais est-ce que vous acceptez que Jésus vienne à la porte de votre cœur et qu'il entre dans votre vie et qu'il vous montre les choses qui ne vont pas? Entre, Seigneur, dans ma vie. Parce qu'il en faut du temps pour aller à la repentance parfois. Seigneur, je me repens, pardon, c'est pas bien. Je crois que ça peut être très superficiel, cette affaire. Mes frères et sœurs, la repentance, ça peut prendre du temps. Pour voir ce qui ne va pas dans sa vie, il faut du temps. Des fois, il faut passer quelques heures dans le silence devant Dieu. J'en ai parlé. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Oh, j'ai pas le temps de prier. Eh bien, vous ne voulez pas être guéri. Parce que quand on veut vraiment être guéri, on prend le temps. Oui ou non? Et ça, c'est être malhonnête. Parce qu'on en a du temps pour faire les choses qu'on aime. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand quelque chose vous plaît, si un film vous plaît qui dure 2h30, est-ce que vous allez dire, ah non, j'ai que 10 minutes, je ne peux pas le voir? voyez, et c'est ça, ne pas être honnête avec Dieu. Parce que si vraiment on souffre de toutes ces plaies que j'ai énumérées tout à l'heure, eh bien, ça vaut la peine de prendre le temps. Pour aller à la source du problème, ça vaut la peine. Pour retrouver cette foi qui guérit, ça vaut la peine. Mais si nous ne passons plus de temps devant Dieu, parce que si vous vous imaginez que c'est le culte du dimanche matin qui va vous guérir, je pense que vous passez à côté. Il faut du temps pour chercher Dieu. Si la télé, c'est plus important que la parole de Dieu, les loisirs, le jardin, le jardinage, le bricolage, il y a des gens qui s'occupent mieux de leur voiture que de leur âme. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous croyez pas quand même que c'est un début de plaie? Quand on passe plus de temps à nettoyer sa voiture ou nettoyer sa maison, qu'à nettoyer son âme, votre maison, c'est un tas de pierres. Hein. Elle va rester là. Hein. Votre voiture, c'est un tas de ferraille. Elle va rester là aussi. Mais votre âme, elle est éternelle. Et elle passera l'éternité avec ou sans Dieu. C'est quoi le plus important? Votre maison matérielle ou la maison de prière? Est-ce que ça ne serait pas bien que les églises redeviennent toutes des maisons de prière où on aime se retrouver? Est-ce que c'est important? Ah, moi, j'ai pas le temps le mardi. Négligez la maison de prière. Vous commencez à avoir un début de plaie. Ah, ma maison, c'est plus important que la vie de prière. C'est un début de plaie. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas comme étant des péchés. Mais la Bible est catégorique. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. À partir du moment où toutes ces choses que je viens de citer, saines, j'ai rien cité de malsain. Mais à partir du moment où même des choses saines commencent à étouffer notre voix, notre engagement envers Dieu, notre service pour Dieu, à partir du moment où certaines choses nous empêchent de faire valoir le talent que Dieu nous a donné, c'est un début de plaie. C'est un danger. Mais nous, on ne le voit pas. Parce que je vous dis, dans une maison, il peut y avoir une grosse tache, une grosse plaie. Paf, on va mettre le bœuf. T'as vu? Il n'y a plus rien. Et les chrétiens, ils font comme ça. On va le cacher. On déplace l'armoire. Et le problème, il est réglé. Il faut du temps. Il faut attaquer les pierres. C'est écrit, vous le relirez. Vous savez, une passion, j'ai parlé de choses saines, mais il y a des passions aussi qui deviennent de véritables obstacles. L'alcool, est-ce que ça peut être une passion? La télé, la lecture, est-ce que ça peut être un piège? Surtout si vous lisez la presse People. Non, mais il y a des chrétiens, ils ne peuvent pas se passer de la presse People. Moi, je trouve que c'est inquiétant. Vous la lisez, la presse People? Qui lit la presse People? Mais franchement, moi, ça m'inquiète, ça. Ouais. Non, mais je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et il y a des choses. Le sport, est-ce que c'est bien de faire du sport? Mais quand le sport vous empêche de faire valoir le talent que vous avez reçu, le loisir, le bricolage, est-ce que c'est bien? Moi, je suis un grand bricoleur. Les anciens le savent. Mais si le bricolage vous empêche de faire la volonté de Dieu, est-ce que c'est bien? Hein? Non. Mes frères et sœurs, s'il y a une plaie dans ma vie, s'il y a une plaie dans mon foyer, s'il y a une plaie dans ma maison, je dois accepter de l'aide. Seigneur, je te demande de venir à mon secours. Vous avez vu, si la maison, elle n'est pas soignable, il faut la détruire. Et ça, c'est un problème de discipline dans les églises. Aujourd'hui, la discipline dans les églises, on n'en veut pas. Mais moi, je peux vous dire qu'il faut en arriver à ôter le méchant du milieu de nous. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est... Et voilà. Et aujourd'hui, mais non, il faut patienter. Écoutez, quand quelqu'un vit volontairement dans le péché, quand un chrétien, je parle, les pécheurs, qui viennent dans leur péché, on est prêt à les accueillir pour les aider à la conversion. Mais si quelqu'un a péché, et s'il se repent, c'est clair, Dieu va l'aider. Mais s'il ne veut pas se repentir, il faut lui demander de se retirer. C'est biblique ou c'est pas biblique? Quand quelqu'un se dit frère et qu'il vit dans l'adultère, quand quelqu'un se dit frère et qu'il vit dans la fornication, quand quelqu'un se dit frère et qu'il est malhonnête, qu'il extorque les frères, quand quelqu'un se dit frère et que c'est un menteur, eh bien, il faut, s'il ne veut pas se repentir, il faut lui demander de se retirer. Parce que ça contaminera toute la maison. Et c'est l'enseignement de la lèpre des maisons. Parce que je crois que si c'est une lèpre invétérée, comme le Seigneur explique, il faut être sérieux. Parce que nous n'avons pas le droit de détruire notre vie. Oui ou non? On n'a pas le droit de détruire notre vie, de détruire notre foyer. Est-ce qu'on a le droit de détruire notre foyer? Notre église? Notre famille? Non! Et il fallait amener tout ça hors de la ville. Et vous savez ce qui s'est passé hors de la ville, hein, à Jérusalem. Jésus-Christ a porté nos péchés. Mes frères et sœurs, si nous voulons la victoire, il faut être honnête. Ne dites pas c'est les autres, c'est l'église, c'est mon mari, c'est les enfants, c'est le boulot, personne m'aime, j'en ai marre. Mettez-vous à genoux. Oui, je veux être guéri, Seigneur. On ferme les yeux quelques instants. Soyons vraiment honnêtes, frères et sœurs. On est sous le regard de Dieu, on est devant Dieu. Et quand quelqu'un est capable de dire, Seigneur, je veux redevenir honnête, je veux redevenir vrai, tu m'as donné un mari, tu m'as donné une épouse, tu m'as donné des enfants, tu m'as donné une famille, tu m'as donné une église. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Tu m'as donné des frères, des anciens, peut-être que vous allez devenir un ancien, un évêque, un diacre, une diaconesse. Soyez des bénédictions. Si vous êtes dans le péché, repentez-vous. Ne participez pas à détruire l'œuvre de Dieu avec votre péché. Vous entendez? Si vous vivez dans le péché, repentez-vous. Ou quittez l'église si vous voulez vivre dans le péché. C'est sérieux? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jésus. La maison du Seigneur, elle doit être saine. Alors, répondons simplement à cette prédication.